Voilà, merci beaucoup pour la prière. Et comme je le disais tout à l'heure, je suis très heureux d'être avec vous. J'aimerais vous inviter à ouvrir la Bible pour ceux qui aimeraient suivre la lecture dans l'Épître aux Romains. Et on lira au chapitre 15, depuis le verset 8 jusqu'au verset 13. Romains 15, 8 à 13. Je dis, en effet, que Christ est devenu serviteur des circoncis pour prouver la véracité de Dieu en confirmant les promesses faites au Père, tandis que les païens glorifient Dieu pour sa miséricorde selon qu'il est écrit « C'est pourquoi je te confesserai parmi les nations et je chanterai en l'honneur de ton nom. » Il est dit encore « Nations, réjouissez-vous avec son peuple et encore « Louez le Seigneur, vous toutes les nations, et que tous les peuples le louent. » Ésaïe dit aussi, « Il paraîtra le rejeton d'Isaïe, celui qui se lèvera pour commander aux nations. Les nations espéreront en lui. » Que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi, pour que vous abondiez en espérance par la puissance du Saint-Esprit. C'est principalement ce dernier verset que j'aimerais vous inviter à garder à l'esprit pendant ce temps de message. Que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi pour que vous abondiez en espérance par la puissance du Saint-Esprit. Durant mes années de ministère à Fribourg, en début d'année, j'ai en général apporté un message qui était tiré de ce qu'on peut appeler une prière bénédiction. Et on trouve plusieurs de ces prières dans l'Écriture, notamment dans les épîtres de Paul et à d'autres endroits aussi. Et il faut le dire, c'est assez rare que ces textes fassent l'objet d'un enseignement ou d'une prédication. Mais comme je le disais, durant mes années de ministère à Fribourg, en général, le premier message que j'apportais de l'année était justement tiré d'une de ces prières bénédictions que je présentais comme un vœu pour l'Église. Et pour aujourd'hui, je n'ai pas voulu déroger à mon habitude et j'aimerais vous présenter le message d'aujourd'hui et ce verset en particulier comme un vœu pour l'année à venir, pour chacune et chacun d'entre vous personnellement, et bien sûr aussi pour toute l'Église. Que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi, pour que vous abondiez en espérance par la puissance du Saint-Esprit. À l'origine, c'est aux chrétiens de Rome que l'apôtre avait écrit cela. Et comme vous l'avez pu l'entendre, et comme je l'ai dit d'ailleurs, cette parole n'est pas avant tout, principalement, un enseignement ou une instruction, bien qu'elle contienne un enseignement et une instruction, mais c'est avant tout une prière, c'est-à-dire une demande de bénédiction à Dieu pour les chrétiens de Rome. Et ce n'était pas quelque chose d'inhabituel pour l'apôtre Paul que de parsemer ses écrits de telles prières bénédictions. Et il ne le faisait pas à l'aveuglette ou au gré du hasard, mais en rapport avec ce que vivaient les chrétiens auxquels il s'adressait. On peut donc légitimement penser que ces chrétiens de Rome avaient besoin de joie, avaient besoin de paix, avaient besoin d'espérance, ils avaient besoin de pouvoir abonder en espérance par la puissance du Saint-Esprit. Et je ne crois pas me tromper beaucoup si je dis que nos besoins à nous n'ont pas beaucoup changé depuis. Nous avons toujours besoin de joie, de paix et de pouvoir abonder en espérance par la puissance du Saint-Esprit. Nous avons besoin de cette force qu'est la joie du Seigneur. Nous avons besoin de cette paix qui surpasse toute intelligence pour pouvoir abonder en espérance par la puissance du Saint-Esprit. Et lorsque Paul écrivait ce genre de prière dans ses épîtres, ce n'était pas simplement pour répondre aux besoins des chrétiens, mais surtout parce qu'il savait que Dieu était capable d'exaucer de telles prières. Et la bonne nouvelle pour nous aujourd'hui, c'est que Dieu n'a pas changé depuis non plus. Il est dit dans l'épître de Jacques, « Tout don parfait, toute grâce excellente viennent d'en haut, du Père des Lumières, en qui il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. » Et ce qu'il faisait pour les chrétiens de Rome, c'est-à-dire les remplir de cette joie, de cette paix, il le fait pour nous également aujourd'hui. Mais ce que j'aimerais vous inviter encore plus précisément à retenir pour notre message, ce sont les derniers mots de ce verset, par la puissance du Saint-Esprit. Parce que ce qui est impossible à notre nature humaine est possible par la puissance du Saint-Esprit. Et vous avez très certainement remarqué que notre verset a quelques similitudes avec un autre verset de l'Écriture qu'on trouve dans l'Épître aux Galates, Galates 5, 22, que vous connaissez très certainement même par cœur, puisque ce verset est connu et parle précisément du fruit de l'Esprit. Et il nous dit ceci, le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la bonté, la bienveillance, la patience, la foi ou la fidélité, ça dépend des traductions, la douceur et la maîtrise de soi. Et dans ce fruit de l'Esprit, ou dans le verset qui retient notre attention ce matin, on entend un peu les mêmes mots, en tout cas quelques-uns, joie, paix, esprit, ainsi que la notion de foi. Et on peut se demander, quand l'apôtre Paul parlait du fruit de l'Esprit, s'il mentionnait la totalité des caractéristiques de ce fruit ou si simplement il en mentionnait une partie. Et il est plus logique de penser que quand il parlait du fruit de l'Esprit et qu'il mentionnait ses différentes caractéristiques, il ne mentionnait pas tout ce que le Saint-Esprit est capable de faire dans nos vies. Dans nos vies en tant que croyants. En général, quand l'apôtre Paul fait une liste de quelque chose, la liste n'est jamais complète. On trouve des compléments à d'autres endroits dans l'Écriture. Et ainsi, dans l'Épître aux Éphésiens, l'apôtre Paul, Éphésiens 5, 9, l'apôtre Paul nous parle du fruit de la lumière. Et il dit ceci, « Le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. » Et certaines traductions ont traduit « fruit de la lumière » par « fruit de l'esprit ». Alors littéralement, c'est plus juste « fruit de la lumière », mais le sens « fruit de l'esprit » est tout à fait conforme, puisqu'en fait, ce « fruit de la lumière » et le « fruit de l'esprit », c'est pareil, c'est ce que l'esprit produit dans nos vies. Ailleurs, encore, dans l'Épître aux Philippiens, l'apôtre Paul parle de l'épître du fruit de la justice. Alors on peut se demander, est-ce que dans nos vies, il y a le fruit de l'esprit, le fruit de la lumière et encore le fruit de la justice ? Auquel cas, le chrétien ressemblerait un peu à ces étalages de fruits et légumes qu'on trouve dans nos supermarchés. En fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a un fruit, une action de l'esprit qui produit tout un caractère, le caractère de Christ en nous, qui est bien sûr vaste et exprimé dans ces différents enseignements de Paul qui parlait à la fois du fruit de l'esprit, du fruit de la lumière et du fruit de la justice. Et ces choses sont bien entendu produites en nous par l'action du Saint-Esprit, par la puissance du Saint-Esprit. Et si on veut que ces choses soient plus abondantes en nous en 2026 qu'elles l'ont été en 2025, il y a un seul chemin à suivre, je crois, c'est chercher à être rempli de l'Esprit. Il y a un chant qui qui date déjà un peu maintenant, qui dit « Quand l'Esprit de Dieu habite en moi ». Vous connaissez peut-être ce chant, « Quand l'Esprit de Dieu habite en moi, je chante, je prie, je loue », enfin tout cela. Quand l'Esprit de Dieu habite en nous, il produit un fruit. Quand on parle du fruit de l'Esprit, c'est tout simplement ce que le Saint-Esprit produit dans notre vie. Et on pourrait se dire, à partir du moment où ce fruit est produit par le Saint-Esprit, bien, puisqu'il est produit par le Saint-Esprit, on n'a pas à s'en soucier, on n'a pas à se soucier de notre manière de vivre. De toute manière, ce fruit va se développer par la puissance du Saint-Esprit. Mais disons que la Bible ne voit pas tout à fait les choses de cette manière-là. Et nous dit d'une certaine manière que notre manière de vivre, en fait, a une, comment dire, un effet sur le développement du fruit de l'Esprit. Et pour bien illustrer le propos, j'aimerais vous partager deux illustrations, l'une tirée de la vie courante, l'autre tirée des Écritures. Pour ce qui est de la vie courante, il y a quelques années en arrière encore, j'habitais dans une maison qui était entourée d'un jardin, et dans ce jardin, il y avait des arbres fruitiers. Et régulièrement, ces arbres donnaient une bonne récolte. Le problème, c'est que personne s'en occupait. On était deux familles dans la maison, on ne savait pas trop qui était responsable de quoi. Alors il y a bien un voisin qui venait un peu tailler les branches de temps à autre de ces différents arbres. Mais disons, sinon, voilà, les arbres produisaient du fruit, il y avait des pommes, il y avait des pruneaux, il y avait quelques poires, mais on ne s'en occupait pas vraiment. Résultat, les pertes étaient conséquentes et beaucoup plus abondantes que les récoltes. Et la chose aurait pu être très différente si on s'en était occupé et si on avait suivi en quelque sorte ces cultures. Et c'est un peu identique en ce qui concerne le fruit de l'esprit dans notre vie. Si on ne suit pas son évolution, si on ne vit pas en fonction de ce qu'il produit dans nos vies, eh bien, avec le temps, il va y avoir des difficultés et il va y avoir des problèmes. Et on va voir progressivement notre joie tarir, notre paix être troublée et notre espérance se changer en pessimisme ambiant tel qu'on le connaît dans le monde d'aujourd'hui. Et c'est la raison pour laquelle la Bible, et l'apôtre Paul en particulier, exhortait les chrétiens à soigner cette vie de l'Esprit en leur disant « Soyez remplis du Saint-Esprit » dans l'Épître aux Éphésiens, ou encore « N'attristez pas le Saint-Esprit » ou encore « N'éteignez pas » car le risque d'éteindre cette vie de l'Esprit existe réellement. Et pour nous, ce qui est important, ce n'est pas d'éteindre l'Esprit, mais c'est de chercher à en être rempli, de manière à ce que ce fruit de l'Esprit puisse se développer dans notre vie et qu'il puisse réellement nous transformer de plus en plus à l'image de Christ. Et puis la deuxième illustration que j'aimerais partager est tirée cette fois des Écritures, et du tabernacle dans lequel, vous le savez, il y avait un chandelier. Et ce chandelier devait être allumé du matin jusqu'au soir. Mais Aaron, et puis par la suite ses fils, avaient reçu comme instruction qu'ils devaient entretenir ces flammes. Et ils devaient veiller à ce qu'il y ait suffisamment d'huile pour que la flamme soit alimentée. Ils devaient veiller à ce que les mèches soient toujours bien entretenues, pour que, voilà, que les flammes puissent briller. Et puis, ils devaient nettoyer le tout, c'est-à-dire enlever les cendres, enlever les résidus. Enfin, travailler de manière à ce que ce chandelier puisse briller de manière continue. Et s'ils n'avaient pas fait ce travail, eh bien, cette lumière se serait changée en ténèbres. Alors, c'est un peu identique, c'est une image aussi pour notre vie, c'est-à-dire que l'Esprit est là, il produit un fruit, mais si nous n'appliquons pas à vivre une vie qui, favorise la maturation de ce fruit, eh bien, évidemment, les problèmes que je disais tout à l'heure vont se présenter, c'est-à-dire qu'il y aura, avec le temps, ce fruit de l'esprit sera étouffé par toutes sortes de choses qui vont venir et puis qui vont l'empêcher de se développer. Alors, l'esprit est en nous, il produit un fruit. On voit que notre manière de vivre influence le développement de ce fruit et on peut se poser encore la question, mais comment alors favoriser la maturité, la maturation de ce fruit? Eh bien, je crois que là aussi, il n'y a qu'une seule réponse possible et c'est encore l'apôtre Paul qui nous donne la réponse dans l'Épître aux Galates. Il nous dit ceci, « Si vous êtes conduits par l'Esprit, marchez selon l'Esprit ». Et là, il y a quelque chose de bien important à comprendre. L'apôtre Paul nous dit « si vous êtes conduits ». Et on pourrait penser parfois qu'on est un peu comme des robots, c'est-à-dire l'esprit est en nous, puis il nous fait fonctionner. voilà, quand je lève le bras, c'est l'esprit qui lève le bras. Quand je lève le pied, c'est l'esprit qui lève le pied. Mais ce n'est pas tout à fait comme ça. L'esprit est en nous, puis il va produire une vie, il va produire un fruit, mais ensuite c'est à nous de marcher selon ce qu'il produit. Et si nous ne marchons pas, ben, avec le temps, voilà, la vie de l'esprit s'en trouvera finalement étouffée. Alors je pense que on a tous ce brillant désir de vouloir marcher selon l'esprit, mais on a tous fait aussi cette expérience que si l'esprit est bien disposé, la chair demeure désespérément faible. Quelqu'un a dit ceci, un politicien américain a dit ceci, si le monde avait toutes les réalisations qu'on avait dit qu'on voulait faire, il serait sans doute différent de ce qu'on connaît. Et puis, si on veut, c'est vrai, marcher par l'esprit, je pense qu'il faut prendre cette décision, cette résolution de marcher selon l'esprit. Se lever avec détermination, disait quelqu'un, si on veut se coucher avec satisfaction. Alors, cette résolution de marcher selon l'esprit, j'aimerais pas vous inviter à la prendre pour l'année 2026. Vous savez, il arrive parfois, à minuit moins 5, on prend des tas de bonnes décisions qu'on abandonne à minuit 5. Alors, ce n'est pas à cela que je vous invite aujourd'hui, mais jour après jour, chaque matin, quand on se lève, si on se lève avec cette détermination de vouloir marcher selon l'esprit, eh bien, on a déjà une bonne orientation pour la journée. Et qu'en marchant selon l'Esprit, que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie, de toute paix dans la foi, pour que vous puissiez abonder en espérance par la puissance du Saint-Esprit. Amen.